Les dessous de l'infox. Sophie Malibaud.
Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans les dessous de l'infox. L'architecture d'Internet est fragile. Des pays d'Afrique en font l'expérience avec la panne géante qui les affecte depuis la mi-mars. On y revient avec notre invitée Charlotte Escorn dans le cadre de notre partenariat avec Géode, projet de recherche en géopolitique de la datasphère. Avec elle, on comprend bien que les stratégies d'influence ne se déploient pas seulement dans le champ informationnel. Elle nous dira comment la Chine avance ses pions sur les routes de l'Internet en Afrique. Quand les fausses unes de journaux satiriques servent à relayer la désinformation du Kremlin, Grégory Genevrier de la cellule Info Vérif de RFI nous en apporte de nouveaux exemples avec un nouvel éclairage sur l'affaire des punaises de lit. Vladimir Poutine s'est-il récemment exprimé sur la couleur de peau de Jésus? L'infox est virale sur TikTok. Erin Flanagan a mené l'enquête pour AFP Factuel. Elle vient nous faire part de ce méticuleux travail de vérification. Mais tout de suite, notre invitée. Bonjour Charlotte Escorn.
Bonjour.
Vous êtes doctorante au sein du laboratoire de l'Institut français de géopolitique, chercheuse associée au projet Géode pour géopolitique de la datasphère. Vous êtes en pleine rédaction de votre thèse de doctorat sur le déploiement de la 5G en Afrique. C'est un travail qui vous a mené à constater notamment la très forte implication chinoise dans ce domaine.
Alors effectivement, il y a une forte implication chinoise. Par quels moyens ? Eh bien par l'entreprise et équipementier chinoise Huawei, qui, de par une compétition économique assez forte avec les États-Unis, a subi et a perdu beaucoup de marchés dans les pays des Nord, dans les pays occidentaux, pour des raisons liées apparemment à des questions de sécurité des données, de souveraineté, de risque d'espionnage. Cette perte importante des marchés occidentaux, finalement, l'entreprise la compense avec les marchés très importants que l'entreprise a sur le continent africain.
Alors, où en est aujourd'hui l'état de développement des autoroutes de l'Internet africain ? On a assisté tout récemment à une panne très sérieuse de l'Internet en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Où ça en est ?
Alors, effectivement, c'était une très grosse panne, puisque 4 des 5 câbles sous-marins qui relient la Côte d'Ivoire à Abidjan ont été sectionnés par un incident en mer lié à un séisme sous-marin, d'après l'entreprise Menone, qui possède un câble sous-marin.
Et qui est une entreprise américaine.
Oui, exactement. Et de part, apparemment, un accident lié à des travaux de BTP au niveau d'Abidjan, qui aurait sectionné ces câbles également. Alors, ce que cette panne dit est assez intéressant, puisque finalement, elle montre le manque de résilience des accès à l'Internet mondial, puisque là, on voit qu'un point d'accès est coupé, et donc ça a des conséquences très importantes dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où, je le rappelle, seulement 3% du trafic continue à fonctionner entre le 14 et le 18 mars. Et surtout, ça montre le rôle que vont jouer des pays comme la Côte d'Ivoire pour des pays voisins ou à l'intérieur des terres, puisque là, c'est une panne qui aurait dû toucher uniquement la Côte d'Ivoire et qui a eu des conséquences énormes en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale.
Et est-ce que ça a un impact, finalement, sur ce qui se passe du côté du développement de la 5G, qui est une question très prometteuse, enfin, qui a été vendue comme quelque chose qui allait permettre tout un rattrapage du développement de certains pays africains.
Exactement. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de comprendre cette infrastructure donc, de câbles sous-marins et de câbles terrestres ? Tout simplement parce que pour que la technologie 5G fonctionne, elle est obligée de se connecter à un moment donné avec ces câbles. Donc, pour développer la 5G, il faut que cette infrastructure réseau, ces autoroutes, comme vous les avez appelées, soient solides et surtout avec des points d'accès diversifiés. Là, cet incident nous a montré qu'on avait assez peu de résilience en cas de problème, même si, je le rappelle, finalement, cet incident est quand même quelque chose de rare et d'assez exceptionnel. Ça montre aussi un besoin d'ouvrir d'autres points d'accès et surtout plus de portes d'accès, de chemins différents et pas seulement un chemin à un endroit.
Où en est aujourd'hui le développement de l'autonomie stratégique de l'Afrique dans le cyberespace ?
Il y a plusieurs champions africains qui ont commencé à émerger, notamment l'entreprise MTN, par exemple, en Afrique du Sud, ou Maroc Télécom au Maroc. Néanmoins, là où il y a une question d'autonomie stratégique, c'est que les pays africains sont quand même dépendants d'équipementiers étrangers aujourd'hui soit chinois, soit européen, soit américain, soit sud-coréen, ce qui fait qu'ils sont obligés d'acheter des équipements à des entreprises extérieures. Et là où il y a un intérêt pour les pays du continent africain, eh bien, c'est que ce sont des pays et des territoires qui sont jugés par les entreprises comme stratégiques. Pourquoi ? Eh bien, de par la croissance de la population, de par les manques encore d'infrastructures numériques, et surtout de par l'espoir, finalement, que le numérique va être une porte d'entrée vers une meilleure intégration dans l'économie nationale, etc.
Et dans cet environnement-là, le discours chinois semble séduire tout particulièrement.
Tout à fait, puisque la Chine prend son exemple pour vendre sous ces technologies, en disant, regardez-nous, il y a 20 ans, nous étions aussi un pays en voie de développement, pauvre, et en investissant dans un champion local, notamment Huawei, et grâce au numérique, on est devenu une des principales puissances, on va dire, au niveau des télécommunications. Ce qu'a montré, par exemple, l'entreprise Huawei, puisque elle a battu complètement les entreprises américaines et européennes en termes de brevets pour le développement des normes 5G.
Quelle est l'implication de ce fait ?
Donc la Chine vend complètement son modèle de développement en faisant la promotion donc, de sa trajectoire avec Huawei, etc. Elle vend également tout un outillage qui va permettre, par exemple, de mieux gérer les populations, la santé, d'améliorer l'éducation, la sécurité, etc. Et donc, la Chine vend, à travers Huawei et des programmes signés entre Huawei et la Chine, tout un modèle de développement. Mais ça n'est pas gratuit, parce que l'intérêt de la Chine, c'est aussi de renforcer ses liens avec les pays des Sud. Donc l'objectif chinois, c'est de vendre des équipements, de faire valoir l'aide que la Chine peut apporter finalement aux pays en voie de développement, aux pays des Sud, pour justement renforcer ses liens et sa coopération avec les pays des Sud, où elle serait au centre de ce Sud global. Mais là où il y a quand même des critiques dans ce modèle chinois, c'est que là, la Chine, elle vend sa technologie. Et donc finalement, elle ne laisse pas aux entreprises et aux équipementiers et aux champions locaux l'opportunité de se développer. Parce que finalement, elle fait un peu comme ce qui a été fait avec les entreprises européennes ou américaines. Ils vendent leur technologie. Ils ne font pas en sorte qu'il y ait une émergence des champions locaux.
La spécificité de la Chine, est-ce que ce n'est pas aussi une grande proximité entre secteur privé, entre une entreprise comme Huawei éventuellement, et l'État chinois et le Parti communiste chinois ?
Alors, je rappelle tout de même que Huawei, c'est vraiment une entreprise privée, là où ZTE, l'autre grand équipementier chinois, est une entreprise publique. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des questionnements à ce sujet-là, car Kreng Zengfei, le fondateur et directeur de l'entreprise Huawei, a travaillé comme ingénieur au niveau de l'armée chinoise avant de fonder l'entreprise Huawei.
Et puis il y a eu le passage de l'adoption de la loi de 2017.
Cette loi, elle stipule que tout citoyen ou toute entreprise chinoise doit collaborer par tous les moyens avec les services de renseignement chinois si cela le demande. Ça voudrait dire qu'à partir du moment où vous utilisez une technologie chinoise, eh bien techniquement, la technologie que vous utilisez, l'entreprise qui a fabriqué cette technologie pourrait transmettre vos informations, vos données à l'État chinois.
En conclusion, Charlotte Escorn, la souveraineté numérique en Afrique, c'est un vœu pieux pour l'instant ?
Pas vraiment, parce qu'il y a vraiment d'importants travaux qui ont été menés à ce sujet-là. Et d'ailleurs, la Chine et Huawei a beaucoup aidé certains pays à justement atteindre ce qu'eux considèrent comme la souveraineté. Alors, la souveraineté numérique, il y en a plusieurs définitions. Dans un pays sur lequel je travaille, qui est le Sénégal, la souveraineté numérique, ça veut dire rapatrier ces données sur le territoire national et ne plus les héberger, par exemple, en Europe ou aux États-Unis. Ça veut dire avoir ses propres équipements, ses propres réseaux et ne plus dépendre d'entreprises privées. Et la Chine, via le projet, par exemple, Smart Sénégal, a proposé à l'État sénégalais d'avoir des data centers, son propre réseau de câbles de fibre optique et des services. Et donc, finalement, en ce sens, la Chine, avec Huawei, a aidé l'État sénégalais à atteindre ce qu'eux considèrent comme la souveraineté numérique. Et donc la souveraineté numérique, c'est pour eux avoir le contrôle sur les données et que les données soient géolocalisées au Sénégal. Mais le fait est que comme ce sont des entreprises chinoises et qu'il y a cette loi qui existe, le fait que les données soient localisées au niveau de l'État, ça ne garantit pas forcément leur sécurité.
Et la performance des équipements qu'ils fournissent pour atteindre ce but ?
Il y a eu plusieurs scandales qui ont été révélés, notamment en Côte d'Ivoire. L'État ivoirien qui avait du coup fait un prêt pour pouvoir justement avoir des équipements chinois et renforcer la connectivité de l'État ivoirien, se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de malfaçons sur les câbles qui avaient été posés, qui étaient de mauvaise qualité, etc. Pour l'instant, c'est assez difficile d'établir la qualité de ces réseaux-là, de par aussi le manque de transparence et d'opacité.
Et du côté des transferts de technologie, comment est-ce que ça se passe ?
Justement, c'est là où c'est compliqué. Parce que à partir du moment où l'entreprise va vendre directement au niveau de l'État, il n'y a pas forcément de transfert de compétences, de transfert de comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser et surtout continuer à entretenir l'entreprise qui est fait. Donc ce qui veut dire que l'État, soit il est obligé de continuer à faire appel à Huawei pour justement continuer d'entretenir l'équipement, soit ben finalement il n'a pas les capacités de l'entretenir et l'équipement n'est plus fonctionnel au bout dès qu'il y a un incident. Donc d'un côté, il y a eu un gain d'indépendance grâce à ces partenariats-là, puisque des États comme le Sénégal se sont rendus moins dépendants d'opérateurs privés comme Sonatel Orange. Mais de l'autre, eh bien, ils se sont créés aussi une nouvelle dépendance aux acteurs chinois.
Merci beaucoup Charlotte Escort de nous avoir aidé à comprendre un petit peu l'état actuel de cette infrastructure, de cette architecture de l'Internet en Afrique et de son évolution.
Rien n'est exclu pour empêcher la Russie de gagner la guerre en Ukraine, pas même l'envoi de troupes au sol. Depuis qu'Emmanuel Macron a tenu cette position fin février, il est devenu une cible de choix de la propagande pro-russe anti-française. Bonjour Grégory Genevrier.
Bonjour Sophie.
Ces dernières semaines, plusieurs fausses unes de journaux caricaturant le président Macron sont apparues sur les réseaux sociaux. Une campagne de désinformation qui s'appuie sur différents médias européens, Grégory.
Oui, Emmanuel Macron caricaturé à la une de Charlie Hebdo le 20 mars dernier. C'est ce que prétendent ces jours-ci plusieurs internautes. Images à l'appui, on y voit Emmanuel Macron dessiné torse nu, drapeau français à la main, partant à l'assaut avec une armée de punaises de lit, fusil vers le ciel. Une référence directe au célèbre tableau « La liberté guidant le peuple » d'Eugène Delacroix. Sous cette caricature est écrit, je cite, « Seuls ceux qui vivent bien sous Macron suivront Macron en Ukraine ».
Sauf que ce dessin n'a pas été publié à la une de Charlie Hebdo.
Non, en se rendant sur le site officiel de l'hebdomadaire satirique français, on retrouve la couverture originale du 20 mars. Couverture dédiée non pas à Emmanuel Macron, mais à Vladimir Poutine et au Rassemblement national. Autre élément de vérification sur cette une manipulée, le positionnement du code-barre, le numéro d'identification du journal et les titres des articles ne correspondent pas au magazine officiel.
Alors, est-ce que vous avez réussi à savoir qui est à l'origine de cette fausse couverture ?
Eh bien, d'après nos recherches, cette info apparaît pour la première fois sur la chaîne Telegram d'un influenceur ukrainien pro-russe, suivi par plus de 417 000 personnes. Ce n'est pas la première fois que ce compte partage en premier des fausses unes qui sont ensuite relayées en masse par les traditionnels canaux de la propagande pro-russe.
Des relais de diffusion qui ont récemment publié une autre fausse couverture, toujours avec Emmanuel Macron.
Et cette fois-ci, c'est l'identité du magazine turc Leman qui est usurpée. On y voit Emmanuel Macron en studio avant une interview télé, pendant que des punaises de lit lui apportent du café et préparent le matériel vidéo. Cette caricature, publiée un jour après l'intervention du chef de l'État sur France 2, est baptisée, je cite, « Le président des insectes s'est exprimé ». Encore une fois, la couverture authentique du magazine disponible sur le site internet de Leman ne fait pas référence à Emmanuel Macron.
Bon, alors comment expliquer cette référence constante aux punaises de lit ?
Eh bien, pour comprendre, il faut remonter en fin d'année dernière. Rappelez-vous, quand la psychose autour des punaises de lit a envahi le débat public en France, le gouvernement affirme aujourd'hui que cette paranoïa a été artificiellement amplifiée par des comptes liés au Kremlin. Depuis, la propagande russe continue de véhiculer ce narratif pour dénigrer la France. Les fausses unes de journaux sont un support, parmi d'autres, pour pousser ce récit. Des montages photos avec des punaises de lit envahissant Paris circulent d'ailleurs sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Cela montre que ce levier de désinformation risque aussi d'être activé pendant les Jeux Olympiques, une période, on le sait, fortement exposée aux attaques informationnelles venues de Russie d'ailleurs.
Merci Grégory Genevrier. Ces fausses unes débusquées sont à retrouver sur notre site internet avec le tag InfoVérif. Nous retrouvons à présent Erin Flanagan de la cellule de vérification de l'agence France Presse. Bonsoir Erin.
Bonsoir.
Vous épinglez aujourd'hui une vidéo trafiquée qui remporte un franc succès sur TikTok, des millions de vues. Dites-nous ce que semblent montrer ces images.
Dans la vidéo, le président russe Vladimir Poutine s'adresse directement à la caméra et une voix off en anglais couvre le son original en russe. D'après le clip, Vladimir Poutine annonce, dans ce discours, la découverte d'anciennes icônes religieuses prouvant que Jésus était noir. On l'écoute.
From this day forward, let us proclaim our nation under the guidance of Black Jesus, a figure who represents not just the cornerstone of Christian faith.
Alors, vous avez vérifié ces images. De quoi s'agit-il en réalité ?
En fait, cette vidéo montre Vladimir Poutine s'adressant à la Russie le soir de Nouvel An 2023, dans un discours au cours duquel il n'a pas mentionné les origines de Jésus. En utilisant une recherche d'images inversées, on a trouvé une image officielle du site du Kremlin montrant Poutine lors de son discours. Sur l'image, il porte la même tenue que dans le clip TikTok, et le même bâtiment illuminé est visible au-dessus de son épaule gauche.
Oui, mais cela ne suffit pas, Erin, à prouver qu'on est bien face au même discours.
Effectivement, il a fallu rechercher la version originale du discours. Grâce à la recherche de mots-clés, on l'a repéré sur un média en kirghiz, Aki Press News. On a fait la comparaison en observant les mouvements du président russe. Au même moment, dans la séquence TikTok, et dans les séquences publiées par l'agence Aki, Vladimir Poutine fait un signe de tête énergique. Puis, à un autre moment, il tourne la tête vers la gauche exactement de la même façon. Et puis, on a aussi cherché le clip dans nos propres archives. On a ainsi retrouvé la même séquence, confirmant qu'il s'agit bien du discours de Nouvel An 2023 en russe. Or, le montage vidéo a ajouté une voix off en anglais, ce qui fait que le son original en russe est à peine audible.
Alors que disent les archives vidéo de l'AFP sur le fond de ce discours ?
La transcription de la vidéo confirme que Poutine ne mentionne ni le Christ ni la religion dans son discours, mais qu'il fait l'éloge de l'armée russe et du pays pour son unité derrière le Kremlin.
Et vous avez aussi vérifié les icônes religieuses que l'on voit dans ce montage vidéo ?
Oui. Car la vidéo TikTok montre également deux des icônes religieuses, soi-disant récemment découvertes. L'une d'elles est visible sur les sites web du Musée national de Serbie. Elle fait partie de la collection d'art post-byzantin du musée. Du coup, on ne peut pas parler découverte récente. Nous avons ensuite effectué une recherche par mots-clés sur le nom du tableau en serbe, ce qui nous a permis de trouver une vidéo sur la chaîne YouTube de ce musée, où les deux icônes présentées dans le faux TikTok sont visibles côte à côte sur le mur. Un journaliste serbe de l'AFP a confirmé que l'experte qui s'exprime dans cette vidéo ne mentionne pas non plus les origines ethniques de Jésus.
Enfin, que dire de l'objectif de cette manipulation ?
Si on peut penser que cette vidéo est faite pour plaisanter, elle recèle en fait de véritables enjeux d'influence. De nombreux utilisateurs qui ont commenté la vidéo sont basés en Afrique. Certaines écrivent que cette vidéo est la preuve que Poutine et la Russie seraient de meilleurs alliés que les pays occidentaux.
La désinformation sur les réseaux sociaux et ses voies impénétrables. Merci Erin Flanagan. Je rappelle que vous travaillez au service de vérification de l'agence France Presse. On retrouve votre enquête plus en détail sur le site de l'AFP Factuel. Les Dessous de l'Infox, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à nos invités, chroniqueurs et chroniqueuses, ainsi qu'à Hélène Avril qui a réalisé cette émission. Pour les références et d'autres vérifications, vous pouvez nous retrouver en tapant Info Vérif RFI dans une barre de recherche. Dans un petit instant, c'est Accent du Monde, Philippe Lecaplain et ses invités des rédactions en langues étrangères de RFI.